tribu, Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. Pour beaucoup d'enfants et d'adolescents, l'heure de la rentrée a sonné. L'occasion de nous pencher ce matin sur la relation prof-élève avec cette question, qu'est-ce qui fait un bon enseignant? Est-ce l'enthousiasme, la passion, alors la discipline ou peut-être l'autorité, l'originalité qui font le ou la bonne prof? Une exposition financée par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique se penche justement sur cette question en se focalisant sur le monde de l'apprentissage. Cette exposition s'appelle Focus et elle va passer dès septembre dans 8 villes romandes. Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin un de ses responsables. Bonjour Jean-Louis Berger.
Bonjour. Merci de m'inviter.
Vous êtes professeur à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, c'est l'IFFP, et vous êtes donc responsable de l'enquête scientifique qui est à la base de cette exposition itinérante. Jean-Louis Berger, bon, peut-être pas si facile de savoir comment, de quelle étoffe est fait un bon prof. Comment vous avez fait votre enquête?
Alors, on a enquêté auprès des apprentis en école professionnelle, comme vous l'avez dit. Donc, c'est des apprentis qui sont un jour, deux jours par semaine en école, le reste du temps en entreprise formatrice.
Donc, ils ont quel âge, plus ou moins?
Ils ont en moyenne 18 ans.
D'accord.
Donc, nous, on a été dans les classes et puis on les a questionnés sur leur façon de percevoir le comportement de l'enseignant. C'est-à-dire, est-ce que l'enseignant a un style plutôt autoritaire? Ou un autre exemple, est-ce que l'enseignant donne un cadre pertinent pour que les élèves sachent à quoi s'attendre et comment ils doivent réaliser les exercices?
Et vous avez fait ça dans plusieurs écoles professionnelles?
Oui, on était dans 6 écoles. Au total, on a 94 classes, donc à peu près 1300 apprentis qui ont répondu, ce qui donne une image assez générale du phénomène.
Et donc c'était des questionnaires écrits ou bien c'était des sortes d'interviews des apprentis?
Alors avec ce nombre-là, c'était des questionnaires écrits. C'était des comportements simples. Est-ce que mon enseignant se comporte de cette manière ou est-ce qu'il ne se comporte pas de cette manière? Donc c'était assez facile de répondre. Et puis, on a aussi questionné les apprentis sur leur engagement. Est-ce qu'ils ont un engagement au niveau émotionnel, un intérêt fort pour la matière? Est-ce qu'ils ont un engagement au niveau de leur comportement? Est-ce qu'ils sont attentifs en classe? Est-ce qu'ils ont un engagement dans leur façon d'apprendre? Ou est-ce qu'ils traitent les choses de manière très superficielle, comme c'est malheureusement souvent le cas pendant la scolarité? Et on a fait le lien entre le comportement de l'enseignant, rapporté par les 15 élèves à peu près de la classe, et puis l'engagement au niveau individuel de chaque apprenti.
Est-ce que vous pensez qu'ils vous ont répondu honnêtement? Parce que c'est compliqué de dire, par exemple, ah non, moi ça m'intéresse pas du tout. Il y en a qui vous répondaient ça?
L'enquête était anonyme, ce qui permet déjà d'être un peu plus honnête. Ensuite, c'était nous qui étions présents, c'était pas l'enseignant qui distribuait. Donc il y avait aucune possibilité d'un retour sur un jugement qui pourrait être négatif. Et puis on voit que les élèves dans une classe, ils sont d'accord entre eux. Ils disent, si le prof est autoritaire, alors les 15 vont le trouver dans une certaine mesure autoritaire.
Alors, avec cette question, finalement, est-ce que vous avez pu dégager qu'est-ce qui fait un bon prof? Qu'est-ce que les élèves ou qu'est-ce que les apprentis apprécient chez une prof ou un prof?
Le message principal qu'on peut dégager, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, il y a d'autres études dans d'autres contextes qui arrivent à des conclusions similaires, c'est que le bon prof, du point de vue des élèves, celui qui permet de se motiver et de s'engager pour apprendre la matière, c'est le prof qui considère les besoins psychologiques de l'apprenti.
Psychologique.
On a tous des besoins physiologiques, manger, dormir par exemple, mais on a aussi tous des besoins au niveau psychologique. On a besoin notamment d'avoir des contacts sociaux intéressants, de se sentir lié à d'autres personnes. On a besoin de se sentir compétent pour certaines activités. Et on a besoin d'avoir une certaine sensation d'autonomie, la possibilité de faire des choix ou de travailler en accord, en cohérence avec nos valeurs personnelles. Et l'enseignant qui peut tenir compte de ces choses-là, qui sait satisfaire dans une certaine mesure les besoins des apprentis, c'est celui qui les mène vers un intérêt, vers un engagement dans les cours.
Mais Jean-Louis Berger, vous avez dit une quinzaine d'élèves par classe, c'est pas évident parce que les centres d'intérêt, les envies, les passions sont différentes parfois pour... il peut y avoir 15 passions, 15 envies différentes, donc ça veut dire que le prof doit être ouvert à tout ou faire un enseignement très spécialisé pour chaque personne, c'est ça que ça veut dire ou bien...
Il y a un entre-deux entre l'enseignement très standardisé où on donne un discours et puis tous les élèves sont censés le recevoir, on imagine, de la même manière. Voilà. Et puis ils ont écouté, ils ont appris. Et de l'autre côté, quelque chose de très individualisé, effectivement très difficile à mettre en œuvre. Donc il y a un entre-deux où on peut donner certains choix, on peut considérer dans une certaine mesure les intérêts des élèves. Par exemple, leur donner un choix de thématique à traiter pour l'évaluation du cours. Mmh. Ou alors grouper les élèves d'une certaine manière pour qu'ils puissent interagir selon leurs intérêts. Mmh. Donc il y a un entre-deux. Et évidemment, la pédagogie qu'on connaît comme étant efficace, c'est celle qui individualise, non seulement au niveau des intérêts, mais aussi au niveau des difficultés d'apprentissage. Donc l'enseignant, aujourd'hui, ne peut pas se permettre de simplement tenir un discours général et d'ignorer l'individu là derrière.
Est-ce que la compétence est un critère qui revient? Est-ce que les élèves, les apprentis ont besoin de quelqu'un qui d'une certaine manière en jette un tout petit peu, qui a une grande connaissance, puis qui peut-être d'une certaine manière les impressionne, ou au contraire ça peut les inhiber?
Alors ils ont besoin de savoir que l'enseignant est compétent et qu'il sait quelque chose d'intéressant qui va pouvoir les aider dans leur futur. Donc ils ont besoin d'un enseignant compétent au niveau de la discipline. Par contre, ils ont aussi besoin d'un enseignant compétent au niveau pédagogique, qui sache interagir avec eux et qui sache reconnaître leurs besoins, comme je l'ai dit, et puis faire en sorte que la matière, en soi sûrement très intéressante, soit comprise comme telle, comme intéressante, par les élèves aussi. Donc il y a un rôle éducatif, d'après moi, au-delà du rôle classique de transmission de connaissances.
Vous disiez aussi, Jean-Louis Berger, ils ont besoin qu'on réponde à certaines attentes. C'est vrai que ça paraît assez logique. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut qu'il y ait comme un cadre assez clair du cours, ou est-ce qu'il faut être relativement lâche sur les frontières du cours et être prêt à partir peut-être par des chemins de traverse?
Ce que les élèves nous disent, c'est que ils apprécient un enseignant, une enseignante qui va chercher à soutenir leur autonomie, donc s'intéresser à eux, à leurs besoins, leur donner une marge de manœuvre, des choix. Mais ils aiment aussi, ils cherchent un cadre. Donc ça suffit pas de leur donner des choix, des possibilités. Ils veulent savoir pourquoi ils doivent apprendre certaines matières, quelle utilité ça peut avoir pour leur futur, d'autant plus à l'adolescence. Et puis, qu'est-ce qui est attendu d'eux et comment ils peuvent le réaliser? C'est un cadre, c'est pas forcément une autorité, c'est pas forcément un contrôle fort où les élèves sont censés se taire et obéir. Mais c'est un cadre, ces deux choses se combinant permettent un engagement que les recherches trouvent optimal. Donc une motivation plus forte, un intérêt plus prononcé, voilà, un apprentissage en détail des matières et pas un apprentissage le soir d'avant pour la note.
Les enseignantes et les enseignants dont on parle là, pour être clair, c'est quelle branche qu'ils enseignent? C'est pas des choses manuelles forcément? C'est quoi? C'est des maths, c'est le français, choses comme ça? Ou c'est...
Dans notre enquête, c'est principalement des enseignants des branches professionnelles. Mmh. Les branches professionnelles, c'est à l'école professionnelle la théorie du métier. Donc si on prend le métier d'électricien, il y a toute une série de savoirs qui sont nécessaires d'apprendre, il y a des concepts, c'est pas simplement un métier pratique. Et donc il y a cette partie qui est très organisée, qui est délivrée à l'école, en complément de ce qui s'apprend en entreprise, au niveau pratique, au niveau du quotidien du métier. Donc la plupart des enseignants qui nous ont répondu, c'est des anciens professionnels d'un domaine qui maintenant l'enseignent. Et il y a une partie des gens qui sont plus sur un enseignement de culture générale, peut-être des mathématiques, peut-être des langues.
Donc la majorité n'est pas dans ce modèle-là. Les apprentis doivent quand même comprendre que si c'est orienté métier, c'est pour la suite de leur métier qu'ils vont pratiquer plus tard que leur enseigne telle ou telle matière.
Ils le comprennent pas tout de suite.
Ah bon.
Au début, il y a beaucoup d'apprentis, surtout dans les centres urbains, qui ont choisi l'apprentissage aussi pour quitter les bancs d'école. Donc la partie école, c'est pas ce qui va les passionner. C'est la partie métier, c'est la partie entreprise qui va les prendre. Après un moment, ils connaissent la partie entreprise et puis ils commencent à comprendre l'intérêt de la partie école pour compléter l'apprentissage du métier. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus difficile d'intéresser les jeunes sur des bancs d'école que face à des problèmes concrets du quotidien dans une entreprise.
Quand on parle de bon enseignant, de bon prof, pour les élèves, c'est quelqu'un qui est capable de motiver. On parle beaucoup de motivation, c'est ça? Quelqu'un qui est capable de tirer finalement l'intérêt des élèves, des apprentis?
Ça fait une grande partie de la définition du bon prof selon les apprentis. Il n'y a pas que ça. Il y a le prof, comme on l'a dit, qui connaît sa matière. Il y a le prof qui s'intéresse à eux. Mmh. Alors après, ça revient un peu aux questions dont on discutait, les questions de motivation.
Mmh. Le côté passion ou enthousiasme du prof, ça c'est quelque chose qui compte aussi, quelqu'un qui est un peu porté par peut-être son métier ou l'envie de transmettre, ça c'est important pour les élèves, ils le ressentent fortement.
Oui, c'est essentiel. Ils observent l'enthousiasme, on appelle ça, nous, l'enthousiasme de l'enseignant dans toute une série de comportements. Et puis ça les aide, c'est une série d'études qui le disent, ça les aide à eux-mêmes s'intéresser à la matière. Mmh. Et puis à être motivés par l'apprentissage de la matière, par la curiosité, plutôt que par un élément externe, la note, la sanction ou le comportement de l'enseignant qui les oblige mmh. à apprendre.
Les profs que vous avez interrogés aussi, on y reviendra, mais ces profs-là, c'est majoritairement des hommes ou aussi des femmes ou c'est moitié-moitié ?
On avait à peu près 2/3 d'hommes mmh. qui répondaient dans l'échantillon. Faut savoir qu'en apprentissage, il y a plus d'hommes apprentis que de femmes, donc ça reflète cette réalité. C'est un peu l'inverse de l'école primaire et le secondaire 1, où la majorité du corps enseignant est féminin. Maintenant, être un homme ou une femme, dans notre étude, ça n'a pas d'importance particulière. Pour les élèves, il n'y a pas de perception différente des pratiques entre hommes et femmes. Maintenant, ce n'était pas notre question principale, donc ce n'est qu'une observation générale.
Mmh. On a parlé des bons profs, mais c'est quoi le pire prof ? C'est venu parfois, ben voilà, ce qu'il ne faut surtout pas être ou ne surtout pas faire face aux apprentis ou aux élèves ?
Nos études, elles nous permettent de conclure que ce qui serait négatif dans les comportements de l'enseignant, ce serait ce qu'on a appelé le laisser-faire. C'est-à-dire que c'est le manque de réaction, la passivité, l'apathie face à des situations de classe qui méritent une réaction. Il y a un conflit dans la classe. L'enseignant qui ne réagit pas, je crois que c'est la pire chose qui peut être faite. C'est pire que l'autoritarisme, par exemple. C'est ce qu'on a appelé laisser faire, c'est-à-dire que ça donne pas de cadre aux apprentis. Ça leur permet pas de se situer et de comprendre les attentes de l'enseignant. Mmh. Et ça entraîne une dynamique où finalement à quoi bon assister à ce cours, si ce n'est l'obligation. Donc c'est vraiment... ça pénalise l'intérêt, le développement de l'apprentissage des élèves. Ce serait un peu ça le profil pour nous du mauvais enseignant.
Jean-Louis Berger, vous parlez d'autorité. Comment c'est considéré par les élèves ? Est-ce que c'est forcément négatif ou ça peut être aussi positif d'avoir un prof très autoritaire ?
C'est ni l'un ni l'autre. En fait, on a dans nos résultats, donc chez les apprentis, si l'enseignant était vu comme, nous on appelle ça, contrôlant, donc autoritaire, il impose son point de vue, il fait taire les élèves, etc. Bah finalement, c'est pas bénéfique, mais ça pas non plus d'effet péjoratif. Donc, par contre, chez les enfants, ça c'est d'autres qui le disent, c'est quelque chose qui a un effet négatif. Ça permet pas aux élèves de s'engager. Ça sabre en quelque sorte leurs émotions à l'école. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas recommander sur la base de nos études. Oui, c'est un petit peu ça que je pourrais dire sur cette question.
Jean-Louis Berger, on parle avec vous de la relation prof-élève ce matin. On se retrouve juste après Alexis HK.
On peut apprendre aux chimpanzés la langue des sourds-muets, entraîner un bourrin à gagner le quintet, on peut apprendre à l'éléphant à se dresser sur ses pattes, apprendre au chien savant à jouer les acrobates, mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. Tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier, on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. On peut apprendre à un taxi à devenir aimable, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable. On peut apprendre à un taulier qui nous sert le pastis à ne pas dire il faut que j'encaisse, j'ai fini mon service. On peut apprendre le respect en se prenant des baffes, des claquades, des taquets, des steaks de doigts dans la face. On peut apprendre l'amour comme une règle d'or pour pardonner les vivants et les morts. apprendre la vertu, à toutes les salaces, partager une laitue. Au lieu de faire des trucs dégueulasses, on peut apprendre à une nonne, contre tous ces principes, qu'on n'a jamais tué personne, en fumant une pipe. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver, tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. Comme un porc.
Alexis Hachka, on peut apprendre, on vous retrouve, Jean-Louis Berger, on parle justement d'apprentissage avec cette enquête qui a été faite sur la relation prof-élève. Et qu'est-ce qui fait finalement un bon prof? Qu'est-ce qui motive les enfants, les adolescents à apprendre? Avec il y aura toute une exposition qui va se balader un peu en Suisse romande, j'en parlerai un petit peu à la fin de l'émission. On a parlé beaucoup du point de vue des élèves jusqu'à présent, de ceux qui apprennent, mais vous avez aussi posé des questions aux enseignants. Est-ce que là, les points de vue concordent ou il y a des différences de la manière dont ils pensent être un bon prof ou pas?
Effectivement, on a questionné les enseignants sur les mêmes types de comportements. Et donc, c'est les enseignants qui nous disent ce qu'ils font dans certaines situations. Il faut savoir que les enseignants savent très bien les pratiques qui seraient les plus adéquates pour engager leurs élèves. En tout cas, les réponses les révèlent. Maintenant, il y a très peu de concordance entre ce que nous disent les élèves, ce qu'ils voient du comportement de l'enseignant, et puis ce que l'enseignant nous dit qu'il ferait. Donc il y a un décalage de point de vue, on pourrait l'expliquer notamment par le fait que l'enseignant a sûrement de très bonnes intentions. Maintenant, c'est peut-être difficile de communiquer, de révéler ses intentions aux apprentis. Et les situations de classe sont forcément complexes. Donc évidemment, on réagit en fonction du comportement des élèves. Mmh. C'est pas facile de suivre les indications qu'on a données. Parfois, c'est beaucoup plus facile d'être contrôlant. On fait taire tout de suite les problèmes. Voilà, on arrête le cours des problèmes et puis on peut reprendre son enseignement. Mmh. Donc il y a différentes explications. Une autre que je pourrais ajouter, c'est peut-être aussi une forme de surestimation de la part des répondants du corps enseignant qui nous ont dit... Voilà, nous, on adopte les bonnes pratiques. Les élèves le voient d'une manière un petit peu différente.
Mmh. Ils s'estiment meilleurs qu'ils le sont, ou en tout cas que les élèves estiment qu'ils sont, c'est ça?
Oui. Mmh. Voilà, tout en prenant en compte les complexités que j'ai annoncées, et puis que c'est pas évident pour les élèves d'observer tout ce que fait l'enseignant, tout ce qui se passe hors de la salle de classe. Les élèves n'en savent rien. Mmh. Donc il y a un décalage qui est compréhensible.
On l'a dit, hein, c'est une étude qui porte sur des apprentis et des apprentis. Est-ce que les constats que vous avez faits sur la manière d'être un bon prof, de capter l'attention, etc., est-ce que ça vaut de manière plus large pour l'école, je ne sais pas, l'école primaire ou au gymnase? Est-ce que d'autres études montrent un peu les mêmes conclusions?
Absolument. Il y a des études dans différents contextes culturels, des États-Unis d'Amérique à la Belgique, à la Corée du Sud. Et puis, à différents niveaux d'enseignement, ça va des enfants jusqu'à l'âge adulte. Et il y a vraiment des récurrences. Il y a vraiment cette idée de tenir compte, puis d'essayer de satisfaire les besoins psychologiques des enfants jusqu'aux adultes qui comptent. C'est ça la clé de voûte. C'est le message que j'aimerais faire passer. C'est que il faut s'intéresser aux élèves, à leurs besoins, à la façon d'y répondre. Et là, on pourra changer la motivation des élèves et puis aller les chercher sur leur terrain, plutôt que de leur imposer uniquement le programme scolaire de manière uniforme. Mmh. Donc pour répondre à votre question, absolument, il y a des principes là derrière qui varient légèrement en fonction des classes d'âge, évidemment, mais qui sont tout à fait réplicables et adaptables dans d'autres contextes.
Jean-Louis Berger, vous dites aller chercher les élèves sur leur terrain. On sait que une des choses qui passionne les adolescents, mais pas que les adultes aussi, hein, c'est les téléphones portables. Il y a cette volonté, par exemple, du canton de Vaud de peut-être interdire dans les classes, mais aussi dans le préau, le téléphone portable. Ça, vous en pensez quoi? C'est une bonne pratique? Il faut essayer d'avoir d'autres interactions sociales, ou au contraire, il faudrait peut-être intégrer ce téléphone portable, enfin, cadrer, ou leur apprendre certaines choses là-dessus?
Alors, nous, on part du principe que le téléphone portable, c'est une réalité. L'interdire dans la classe, ok, on va l'interdire. Et puis, ça fait partie de la vie des jeunes. Le corps enseignant, bah évidemment, il y a toujours un décalage d'âge hein, entre les élèves et puis l'enseignant. Puis ce décalage, il s'accentue avec l'expérience du corps enseignant. Pour dire que pour nous, c'est plus intéressant d'essayer de mobiliser les instruments actuels dans l'enseignement plutôt que de les prohiber tout simplement. Mmh. Donc, s'il y a des problèmes d'élèves qui jouent au portable ou qui l'utilisent en classe, pour nous, ce serait plus adéquat que l'enseignant cherche à mobiliser le portable dans certaines activités, ou alors qu'il utilise ces événements pour en faire une leçon pédagogique. Mmh. Comment on utilise le portable? Qu'est-ce que ça signifie au niveau social d'être sur son portable, toujours face à quelqu'un? Voilà, quelles attitudes on peut adopter? Donc pour nous, c'est quelque chose qui devrait à terme s'intégrer au niveau pédagogique. Maintenant, je comprends très bien les enseignants qui veulent pas des élèves qui soient sur le portable, en train de les filmer en classe. Il y a certaines limites à l'utilisation qui sont absolument compréhensibles. Mmh. Mais je pense qu'on va arriver à terme à passer outre l'interdiction, qui est en France notamment aussi maintenant en vigueur, pour une vraie intégration des téléphones ou d'autres instruments numériques dans la classe.
C'est intéressant la question, la classe, presque tout le monde semble assez d'accord parce que c'est un espace d'apprentissage. Il y a la question de la récréation, de la pause, et qui est intéressante parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, comme ils ont été privés pendant 2 heures, mon Dieu, c'est affreux, de téléphone portable, il faut vite aller pendant la pause. Or, la pause est peut-être effectivement un espace social, un espace où on va courir plutôt que se mettre dans un coin assis à être sur Snapchat et Instagram. La récréation, vous avez la même idée, il faut peut-être plutôt intégrer plutôt que d'interdire.
En effet, vous avez raison, la récréation, avant les portables, c'était un moment social. Après, ça se passe plus ou moins bien. La récréation, c'est pas forcément toujours un temps agréable pour tous les élèves. Il y a d'autres problèmes qui se posent. Et c'est vrai que si on a chaque élève sur le portable, ça correspond pas, à mon avis, aux objectifs de l'école. Mmh. Qu'à des objectifs d'apprentissage de contenu, mais aussi d'apprentissage sociaux. Être en société, ça s'apprend à l'école. Collaborer avec d'autres personnes, ça s'apprend à l'école. Mmh. Donc, je partage tout à fait cet avis que le portable n'est pas non plus le meilleur instrument dans la cour de récréation. Maintenant, il va falloir être créatif pour trouver une solution qui convienne aussi aux élèves, qui soit pas une pure interdiction du portable.
Jean-Louis Berger, je l'ai dit, il y a eu toute cette enquête que vous avez faite. Maintenant, il y a une exposition qui va se tenir un peu dans plusieurs villes en Suisse romande. Pourquoi finalement faire une exposition de cette enquête? C'est quoi l'objectif?
Nous partons du constat que les questions liées à l'école, notamment à la motivation des élèves, c'est vraiment des questions de société. Donc le corps enseignant que je côtoie régulièrement, pour eux, c'est une problématique importante. Comment je fais avec mes élèves? Chaque année, apparemment, c'est pire. C'est aussi une question qui se traite en famille. Donc voilà, on a parlé hein, du bon, du mauvais prof, celui qui arrive à me motiver ou celui qui me démotive. Donc c'est des questions sur lesquelles il y a beaucoup de conceptions. De la part de tous, on a tous été à l'école. Donc nous, on est parti de l'idée que la recherche scientifique avait des éléments qui pouvaient être intéressants à confronter avec les conceptions du public.
Mais ça veut dire, concrètement, ça se passera comment? On se mettra dans la peau d'un prof, d'un élève? Comment ça
Exactement.
Se passe?
Exactement. Donc on va demander aux visiteurs de se mettre dans la tête d'un enseignant, de se projeter dans certaines situations illustrées par des photos, et puis de dire, ben voilà, si c'était moi l'enseignant, l'enseignante, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Il y a des choix. En fonction du choix du visiteur, eh ben il y a un élément de réponse, des informations qui lui viennent en retour, qui sont tirées de nos recherches, et puis qui disent, voilà, ben, ce type de comportement d'enseignant, voilà ce que ça évoque chez les élèves. Voilà le type de réaction que pourraient avoir les élèves. Donc ça devrait faire réfléchir. C'est un peu une expérience éducative qu'on essaye d'apporter. Mmh. Et on espère que ça va intéresser un public très large, puisque tout le monde a une idée de l'école et tout le monde a eu des bons, tout le monde a eu des mauvais profs.
C'est une exposition qui passera par plusieurs villes, hein, j'ai dit de Suisse romande, dès le 4 septembre. Ça commencera à Renon, ensuite Lausanne, Genève, Delémont, Nyon, Fribourg, pour se terminer en mai 2019 à Neuchâtel. Peut-être que d'autres villes viendront s'ajouter, on verra. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Jean-Louis Berger.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle et que vous êtes donc responsable de l'enquête scientifique qui est à la base de cette exposition itinérante Focus. Demain, nous parlerons du politiquement correct. Un clin d'œil à Luana Biadici qui était avec nous ce matin à la technique. Mais là, à presque 11h30, il est temps pour moi de laisser la place à Laurence Bizang et à ses décodeurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Genève-Ost, on annonce un temps d'attente d'une demi-heure au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie.